quelques mots, mais il était considérable. Et je suis très reconnaissant que ce soit pour ce sujet, comme pour d'autres à venir, des frères et des sœurs de l'Église qui alimentent notre réflexion. Nous aurons le plus régulièrement possible, pas seulement les pasteurs qui diront quelques mots, mais aussi des frères et sœurs de l'Église qui ont travaillé un sujet ou l'autre. Donc pour ce soir, l'histoire du réveil à Genève, et puis dans 15 jours, avec Michel Serex, une soirée plus orientée sur l'histoire même de notre Église locale, ici à Mérin. Merci donc de votre présence, de votre participation, et puis j'aimerais encore juste prier. Cher Seigneur, nous te remercions pour la journée que tu nous as accordée, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta grâce renouvelée, pour ton authentification tout au long de l'histoire, que ce soit l'histoire de la révélation ou plus récemment l'histoire du christianisme et pour ce qui nous concerne ici à Genève, en Suisse romande, l'histoire de nos églises. J'aimerais te demander, cher Seigneur, de nous faire cette grâce d'être ouverts, attentifs. On se réjouit d'être surpris, d'apprendre des choses, d'être encouragés. Et j'aimerais te prier encore spécialement pour Paul Robert, de remercier pour lui, pour le travail qu'il a consacré à ce sujet. Et puis, voilà, réjouis-nous ensemble pour la suite de cette soirée. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alors bonsoir à chacun. C'est vrai que quand Philippe, on discutait des choses, des valeurs dans nos églises, etc. Puis un jour, Philippe me présente un peu leur projet, leur projet, je crois qu'ils sont plusieurs à discuter de ça par rapport à notre église, son organisation, enfin bref, tout ce qu'il y a là, et le réveil. Et tout à coup, il me dit, pourquoi tu ne présenterais pas ça? Pourquoi pas? Je me retrouve plutôt dans un rôle d'enseignant que dans un rôle de prédicateur, comme on dirait. Mais voilà, donc j'ai accepté de faire cela, j'ai commencé à regarder. C'est vrai que j'avais eu la chance avec Anne-Béatrice de suivre la formation au service dans l'église, qui aujourd'hui c'est le Free College. On avait aussi étudié l'histoire de l'église, j'ai un peu replongé là-dedans, puis bon, tous les bouquins, les trucs, etc., auxquels je me réfère, parce que vous savez, l'histoire du réveil et l'histoire de l'église, j'ai rien inventé, hein, c'est des choses qui ont existé. Certainement que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, en connaissent plus que moi. Je ne sais pas. Mais je vais essayer d'une manière simple de vous introduire dans cette histoire de l'Église jusqu'à nous. Mais bien sûr, je me consacre au réveil sur Genève. Je ne commence pas à parler du réveil en France, des brigades de la Drôme, Félix Neff, etc. Tout ça, on le sait, mais vous pouvez le lire dans les histoires, dans les bouquins, tout ça y est. Mais je suis obligé de me concentrer un petit peu. J'en aurai déjà pour un bon petit moment. Si jamais ça ne va pas, vous levez la main. Et je m'arrête. Alors, après mes recherches, je vais essayer de vous rapporter quelques éléments de ces diverses lectures, études, et voir avec vous d'où on vient, et avec cet appui, discerner où nous allons. Alors, je vais commencer, en tant que menuisier, vous parler de construction. Si je vous dis les deux maisons, Matthieu 7, qu'est-ce que vous allez me répondre? Les deux maisons. Le roc et le sable, bien sûr. En effet, nous savons, celle bâtie sur le sable s'effondre suite à la tempête. L'autre bâtie sur le roc résiste et tient bon. Construire sur un bon fondement, que cela soit pour nous personnellement ou en communauté, c'est absolument nécessaire. Ce fondement, nous dit l'apôtre Paul, au chapitre 3 de la première aux Corinthiens, c'est Jésus-Christ. Aucun autre fondement que Jésus-Christ. C'est le roc, c'est le socle. Ensuite, nous sommes appelés à bâtir dessus. Mais qui bâtit? Tous les chrétiens, et notamment tous ceux qui nous ont précédés. Chacun a posé sa pierre, pierre vivante, jusqu'à maintenant, de la Pentecôte à aujourd'hui. je cite 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle agréable à Dieu. » Notre fondement, savoir d'où l'on vient, notre histoire, s'appuyer sur elle pour vivre l'avenir, afin de poser nos pierres vivantes dans l'histoire de l'Église. Nos pierres vivantes aujourd'hui, dans notre temps, dans notre époque, notre moment. Quelles pierres vivantes nous posons dans cette histoire? N'oublie pas, souviens-toi, rappelle-toi, fais mémoire, enseigne-le à tes enfants. De nombreuses fois, Dieu rappelle cela à son peuple. De là, les fêtes, les rassemblements, les sacrifices, les lectures de la loi, et tout cela régulièrement, chaque année. L'importance en est soulignée, l'importance du savoir, de la connaissance, de la reconnaissance de notre histoire. C'est absolument nécessaire. Avant de continuer à construire, avant toute grande discussion et autre décision, savoir d'où l'on vient. Sinon, comme la maison sur le sable, risque d'effondrement en vue. Alors je vais vous parler un peu de cet effet, de ce réveil, mais je vais vous faire un petit peu d'histoire. Notre église évangélique de Meyrin s'inscrit dans l'histoire de l'Église universelle. En effet, nous pouvons nous réclamer de l'origine de l'Église à la Pentecôte, nous réclamer de la catholicité de l'Église, terme issu du latin catholicus, signifiant général, universel, je dirais l'Église d'origine. Nombre d'Églises chrétiennes aujourd'hui encore revendiquent l'universalité et l'origine de l'Église avec un grand E, bien sûr. On peut s'associer, et pour souligner cela, et prendre pour nous le symbole de Nicée. Donc, ce rassemblement de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, il y a un symbole qui souligne les quatre notes de l'Église. L'Église est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Et les gens de confession de foi, résumons les points fondamentaux promulgués en 325 après Jésus-Christ. Alors je les résume, je crois en un seul Dieu et Père, c'est très long. Hein. Donc j'ai résumé un petit peu ici, je crois en un seul Dieu Père créateur, un seul Seigneur Jésus-Christ, né de Dieu, engendré et non pas créé, par lui tout a été fait, pour notre salut il descend du ciel, par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie, crucifié sous Pilate, il ressuscite le troisième jour, il monte au ciel et s'assoit à la droite du Père. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique, donc dans le sens universel, et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le don, pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est ce que dit le symbole de Nicée. Et si on dit que on s'inscrit dans cette histoire de l'Église, on reconnaît, du départ de l'Église, on peut reconnaître ce symbole qui a été souligné au 7e siècle par le symbole dit des apôtres, c'est le symbole des églises chrétiennes, également aujourd'hui reconnu par les protestants. Hein, on appelle ça plutôt sous la forme, on dit le credo. Hein. Non, tu peux. Voilà. Merci. On dit ça le credo. Et. C'est un peu la même chose, un peu plus court, mais il y a un petit changement, un petit mais important changement. Je vous rappelle, c'est au 7e siècle qu'il a été écrit. Et les protestants l'ont rejoint après la Réforme. Dans le symbole des apôtres, je crois à la Sainte Église catholique est devenue, dans la version protestante, je crois à la Sainte Église universelle, afin de ne pas prêter à confusion avec l'Église catholique romaine de l'époque. Cependant, nous savons qu'il y a eu dès le départ des problèmes, des schismes, des séparations dans l'Église universelle. Je vais en citer trois. Il y a les églises d'Orient, Constantinople, qui se séparent des églises d'Occident, le pape à Rome, et de là naissent les églises orthodoxes en 1054. Et elles sont toujours là, hein. Elles sont un peu, elles ont aussi des... En 1531, Henri VIII, roi d'Angleterre, fonde l'église anglicane à cause du refus du pape Clément VII d'annuler son mariage. Voilà d'où vient l'Église anglicane, hein, simplement. Donc d'ailleurs, le roi ou la reine d'Angleterre est toujours chef de l'Église. Et puis bien sûr, la réforme en 1517, ou la naissance du protestantisme. Le moine Martin Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences papales sur la porte du château de Wittenberg. Et évidemment, pour nous, Calvin, de son prénom Jean, important réformateur et pasteur emblématique de la réforme protestante au XVIe siècle, à Genève, ville dite de Calvin. La réforme, ce fut un grand élan de foi, de courage, qui gagna l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la France, etc., etc. Vous connaissez la réforme, je ne veux pas vous faire l'histoire de la réforme. Pour la résumer, je citerai les cinq solas de la réforme. Tu peux mettre le suivant là. Merci. Face aux déviances du catholicisme ambiant de l'époque, en 1500, ces solas, on peut les prendre pour nous. Bon, je vous les cite. Le premier, c'est sola scriptura, par l'écriture seulement. Sola fide, par la foi seulement. Sola gratia, par la grâce seulement. Sola Christus, Christ seulement. Et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Dans cette histoire, jusqu'à la réforme, nous ne pouvons passer sous silence les pré-réformateurs qui, avec courage et souvent au péril de leur vie, ils ont même laissé leur vie, ont essayé de ramener l'Église catholique romaine sur les rails de l'Évangile. Je m'en citais trois, puisqu'il y en a eu d'autres. John Wycliffe, 14e siècle, un Anglais, il a traduit la Bible en anglais. D'ailleurs, pour ça qu'il y a encore l'association Wycliffe, bref. Et puis, il avait un surnom que j'ai appris, Étoile du matin. Étoile du matin. Et puis, bien sûr, Jean Hus, le Tchèque, au 14e et 15e siècle, qui prêche sur les erreurs du catholicisme et il prône un retour apostolique de l'Église. Et ensuite, avant encore, Pierre Valdo, 12 ou 13e siècle, un Français, de lui est née l'Église vaudoise dite du Piémont, et cette Église vaudoise a édité une des premières Bibles en français, la Bible dite d'Olivetan. A souligné que ces pré-réformateurs, tout comme les réformateurs, n'ont jamais désiré quitter l'Église catholique. Et ils en ont été excommuniés de ces églises. Voilà, on arrive au réveil, bien sûr. Voilà, on peut mettre le vide. Le temps passe. Les siècles se succèdent. La contre-réforme en France laisse des traces. Louis le 14e dit le roi soleil, je dirais plutôt le roi de la nuit ou le roi des ténèbres, révoque l'édit de Nantes qui avait été promulgué presque un siècle avant par Henri IV pour la liberté de religion, de pratiquer son culte. Pour lui, il y a aussi des solas. Il dit, dans mon royaume, il y a un seul roi, une seule foi et une seule loi. Une seule fois. Et c'est les dragonnades. L'emprisonnement, les mises à mort, l'envoi au bagne, aux galères des protestants, à la tour de Constance. Certains protestants se révoltent, ils résistent. Ils forment une sorte d'armée qu'on appelle les camisards à cause de la chemise qu'ils portaient. Et tout cela engendre une violence extrême, autant d'un côté que de l'autre. Les dragonnades, c'est pas quelque chose de drôle. Si vous lisez deux, trois trucs là-dessus, c'est horrible ce que les gens vivaient dans les dragonnades. Les temples sont détruits, les pasteurs arrêtés, tués. Les protestants, ceux qui le peuvent, quittent la France, fuient pour la Suisse, Genève, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Amérique. Ils embarquent à La Rochelle. On peut aussi faire tout un truc sur La Rochelle, etc. Et puis, bien sûr, heureusement, il y a eu Louis XVI qui a redonné une liberté. Mais lui, après Louis XVI, on a coupé, et c'est la Révolution française, en 1789, qui rétablit la liberté de culte. Et puis, suite à ça, il y a eu plusieurs régimes, il y a les guerres napoléoniennes, avec un passage de 15 années, de plus de 15 années, de l'armée française à Genève. On était français à ce moment-là. À ce moment-là, les liens entre l'Église protestante et l'État sont rompus. Les autorités religieuses de notre canton sont mises à leur juste place et s'occupent des choses spirituelles, le temporel étant à ce moment-là assuré par des hommes politiques, la religion n'étant plus prédominante. Et puis, ça continue, l'Église protestante oublie les préceptes de Calvin. Elle s'assoupit. Qui dit réveil dit un état de léthargie, d'endormissement. Moi, le matin, quand le réveil sonne, je mets un moment avant de me réveiller. Le réveil, c'est, il y a eu quelque chose avant. Pourquoi on dit réveil? Là, je vais citer un peu Jacques Blandonnier. La ville de Calvin est devenue la ville de Voltaire et de Rousseau. L'église de Genève, dès le milieu du XVIIIe siècle, est notoirement influencée par ces deux personnes, par l'esprit du temps, par la philosophie dite des Lumières, par un optimiste déclaré en la vertu de l'homme, en sa raison, critère de toute chose, en sa bonté naturelle, exemple du besoin de régénération. Hein ? L'homme est bon, la société le rend mauvais, j'ai entendu ça. Hein ? En 1756, l'article de l'encyclopédie consacré à Genève affirme que la majorité des pasteurs ne croient plus en la divinité de Jésus-Christ. D'ailleurs, Rousseau ironise sur ce plan-là par une phrase qu'on trouve dans tous les manuels que vous pouvez trouver sur le réveil. Il dit ceci, je le cite, « Ah, Rousseau, hein, ce sont de curieuses personnes que messieurs vos pasteurs. On ne sait pas ce qu'ils croient, ni ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. » Rousseau. Et c'est vrai que la confusion est complète. Elle est complète à ce moment-là. À la faculté de théologie de Genève, on n'ouvre plus la Bible que si ce n'est comme un manuel d'hébreu et de grec. À la place de la Bible, de la parole, des doctrines arrivent qui influencent l'enseignement de cette faculté et influencent bien sûr l'Église protestante et les gens qui en font partie. Alors je peux citer certaines philosophies, si vous voulez, je peux vous les expliquer. Alors, par exemple, il y a le déisme, qui est une philosophie admettant l'existence d'une divinité, mais pas la religion. L'arianisme, donné Arius au IVe siècle, doctrine, j'ai vu ça sur Google, hein, doctrine affirmant que Jésus-Christ est fils de Dieu, engendré par son Père, mais subordonné au Père. Il n'est pas vraiment... Ouais, bon. Et puis le pire... C'est le socianisme, d'un dénommé Saussin au XVIe siècle, une hérésie. C'est une hérésie, cette philosophie-là, rejetant les mystères de la religion, le péché originel, la grâce et surtout la divinité de Jésus-Christ. Et puis il y a le pélagionisme, d'un moine du Ve siècle, dénommé Pélage, doctrine soutenant que l'homme peut assurer son salut par ses seuls mérites. Et il a le libre arbitre. Voilà un peu où nous en sommes dans l'Église protestante et son enseignement à la faculté et la formation des étudiants qui y sont.
On est dans quelles années, Paul Robert, là ?
Là, on est en 1756. Et c'est là. C'est là que Dieu est formidable. Dans ce creux de vague que Dieu va susciter ce qu'on appelle le réveil. Il y en a déjà eu un peu en Angleterre avant, mais à Genève, il va avoir suscité le réveil de Genève. En 1741, le comte de Zinzendorf, avec sa famille et une cinquantaine de frères et sœurs moraves, oh, c'est qui les moraves ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, tout à coup ? Alors, les moraves, c'est une dénomination protestante créée en 1457 qui s'inspire de la prédication de Jean Hus. Ils sont chassés de Moravie, en Bohême. C'est pour ça qu'on les appelle les Moraves. Alors, le corps de Zinzendorf vient s'installer à Genève avec 50 personnes. Alors, pour quelle raison et tout, je ne sais pas. Il forme des assemblées religieuses dans son quartier plein palais et dans plusieurs autres quartiers de Genève. Qui se réunissent, ces assemblées, en dehors des heures de l'église officielle, pour ne pas faire une concurrence, pour avoir de bisbilles. Après son départ de ce comte Zinzendorf, on compte 600 à 700 membres qui font partie de ces petites assemblées. À l'époque, c'est pas mal. Manifestant une piété ravivée par la découverte de la réalité du pardon, du salut par la grâce et de la vie éternelle. Alors la compagnie des pasteurs, protestante donc, les regarde avec soupçon, craignant pour son autorité et pour l'unité de l'Église. On se croirait revenir au temps du Christ, quand il s'est le procès de Jésus-Christ, hein, où il disait, pour nous, tenir un qui sort, l'unité, etc., etc. Et c'est là qu'en 1810-1811, quelques jeunes étudiants de cette faculté de théologie, assoiffés de certitude et de paix intérieure, entendent la voix de l'Évangile par un prédicateur morave. Il y en a plusieurs, hein, j'en cite un ou deux, hein, un dénommé Ijen Metetal. Il s'agit, ces étudiants, de messieurs Ami Bobst, Henri Pitt, Henri-Louis Empeta et Gers, je n'ai pas son prénom. Ce sont des futurs, pardon,
Émile,
tu me diras après. Ce sont des futurs, je sais qu'il y en a qui en savent plus que moi, futurs grands prédicateurs du réveil. D'ailleurs, ils font remonter leur conversion à 1810-1811. De grandes difficultés attendent ces jeunes à la faculté de théologie. Les professeurs d'alors tolèrent très mal la participation de ces étudiants à des groupes d'édification. Empeta, donc Henri-Louis Empeta, en Allemagne, écrit avant de rentrer à Genève une brochure intitulée « Considération sur la divinité de Jésus-Christ », après avoir lu plus de 250 sermons qui ont été faits par les pasteurs dans l'Église protestante. Il a lu tous ces sermons, et là, il ramène l'Église au milieu du village, paraît-il. Et cette brochure fait scandale à l'université, à la faculté de théologie. Ces jeunes gens sont sommés de s'expliquer et d'expliciter leur foi. Ils le font en se référant à la confession de foi de La Rochelle, grande confession du XVIe siècle des églises calvinistes de France et de Suisse. Et il semblerait que plusieurs de ces professeurs ne savaient même pas à quoi ils se référaient. Ces jeunes ne désirent pas imposer des doctrines nouvelles. Ils se réfèrent simplement à la réforme, dont ils se sentent les fils. Nous aussi, d'ailleurs, je me réclame de la réforme. Vous aussi, je pense, comme de la catholicité de l'Église. Des évangélistes anglais, j'en cite un, calviniste, passe par Genève. En 1817, un dénommé Robert Aldan rassemble chez lui des étudiants en théologie, ignorants et ayant soif de la grâce, pour étudier, je vous le donne en mille, quelle épître ? L'épître aux Romains. Je crois que c'est une des épîtres essentielles du Nouveau Testament. Elles sont toutes importantes, mais l'épître aux Romains. Le message du salut par la grâce et la vie nouvelle reçue par la foi, c'est comme un coup de clairon, dit Jablon Denier, libérateur aux oreilles et au cœur de ses auditeurs. Hein, ses auditeurs, il n'y en a pas que 3 ou 4, il y en a certaines. Et alors, Frédéric Monod, Maire d'Aubigné, César Malan et bien d'autres prêchent ce message libérateur. Ce sont aussi des pasteurs reconnus. Hein. La vénérable compagnie des pasteurs en 1817, toujours, publie un règlement interdisant de prêcher. Daniel ? Interdisant de prêcher, la compagnie des pasteurs, protestants, sur la manière dont l'humanité et la divinité sont unies en Christ, sur le péché originel, la manière dont la grâce opère et la prédestination. Ces 4 doctrines fondamentales de Calvin sont interdites de prédication dans l'Église de Calvin. C'est incroyable. Ce règlement soulève de vives oppositions, bien sûr. Alors qu'il croyait stabiliser, ça soulève tous ces étudiants, enfin tous ceux qui ont été renouvelés, régénérés, qui se sont convertis, si on ose dire, vive opposition et ils rejettent ce règlement. Attention, c'est des étudiants, là. On leur interdit, parce qu'ils voulaient même pratiquer un culte comme ils le pensaient, alors, on leur interdit un temple pour célébrer le culte à leur manière. Et c'est là qu'il y a le tournant. Ils se constituent le 18 mai 1817, c'est toujours cette même année, en association qui va devenir la première église indépendante de Genève, dissidente de Genève. Pour la première fois, depuis la Réforme, la scène est célébrée hors de l'Église nationale protestante, de l'Église officielle. Pour la première fois, depuis la Réforme, 1500 et quelques, on est en 1817. La première fois que la Sainte Seine est célébrée hors de l'Église officielle. Cette Église du Bourg-de-Four, qui se réunit au Bourg-de-Four dès 1818, puis à la Pélisserie, elle va se réunir ensuite à la Pélisserie, après la construction de la chapelle en 1839. Cette chapelle est toujours dans le centre de la vieille ville à Genève. Et on peut dire que c'est le premier réveil de Genève, et ce qui marque surtout, c'est cette création d'une église indépendante et cette célébration de la scène. Au moment où on célèbre la scène, on devient église ou assemblée, parce qu'il s'appelait les assemblées. C'est le premier réveil de Genève. Tu peux enlever là, mettre vide. Le réveil, ce n'est pas qu'un redressement doctrinal. C'est toute une vie spirituelle de l'Église, je dirais presque de la ville, des gens qui est en jeu. La découverte de la grâce en Jésus-Christ est une expérience enthousiasmante à vivre personnellement à travers la nouvelle naissance et l'expérimentation de la joie et de l'assurance du salut. C'est ça le réveil. Cette Église du Bourg-de-Four connaît un essor magnifique. En 1823, elle comptait 300 membres et 3 pasteurs. De ce réveil est né un élan fantastique sur le plan missionnaire et de l'évangélisation en France, et bien sûr qu'il a parti sur le canton de Vaud. Comme dans tout mouvement, des discussions, des opinions, des manières de voir se font jour dans l'Église du réveil. Mais pendant ce temps, dans l'Église protestante, il y a encore quelques pasteurs qui prêchent, des pasteurs qui sont encore là, qui ne sont pas de l'Église dissidente, qui prêchent la divinité de Jésus-Christ et le pur évangile, notamment à Satigny, ma commune d'origine, au temple, et c'est à Samuel Célérier qui alors annonce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, et son successeur, notamment Louis Gosson. Ce ministère de Louis Gosson était fructueux. Est fructueux et la participation est toujours plus grande. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Plusieurs femmes rejoignent le réveil. Je veux juste en citer quelques-unes. Madame de Stel, je ne sais plus si une comtesse ou une baronne. Tu dois savoir, non? Une comtesse ou une baronne. Madame de Stel, comtesse, c'est elle qui a le château de Coppet, qui existe toujours. Elle soutient Gosson et le réveil. Elle participe au culte et aux diverses réunions organisées à Satigny. Il faut quand même se déplacer de Coppet à Satigny. Il n'y avait pas l'élément express. On peut citer encore une femme importante dans le réveil, c'est Albertine Necker de Saussure. C'est tout des deux. C'est marrant, c'est beaucoup de femmes par rapport aux notables, vous savez. Comme à Thessalonique, c'est les femmes des notables qui rejoignent l'Église avec l'apôtre Paul. On se dit, mais puis les maris sont où, bref. Et cette Albertine Necker de Saussure, elle écrit des livres sur la promotion de la femme. Alors je ne les ai pas lus, mais il paraît qu'à cette époque, c'était extraordinaire ce qu'elle proposait pour la promotion de la femme, qui était plus ou moins bien reconnue. Et puis, il y a Valérie Boissier, comtesse de Gasparin, elle fréquente la Société évangélique de Genève, dont on va parler, et qui soutient aussi le réveil. Voilà donc 3 personnes, mais il y en a d'autres, les dames du réveil, il y en a bien quelques-unes. Mais je voulais quand même les citer, elles sont importantes, il n'y a pas que les mecs.
Merci pour le rôle.
Je me fais violence aussi des fois. Je rigole, vous voyez, voilà. Ça va?
Ouais.
Bon. En 1831, ce Louis Gosson, pasteur à Satigny, avec messieurs Galland et Merle Daubigné. Merle Daubigné a donc une route à Genève, une rue à Genève qui s'appelle Merle Daubigné, fonde la Société évangélique de Genève, SEG, dont une école de théologie, afin de dispenser une théologie en accord avec la Bible, la parole de Dieu. Ceci face au dogme anti-trinitaire de la faculté de théologie protestante à Genève. La SEG, donc la Société évangélique de Genève, qui existe encore aujourd'hui, elle est toute petite, toute faible, elle aurait besoin de renfort, n'est pas une église. Mais à ce moment-là, elle en exerce un peu les activités. Prédication. École du dimanche. Là, c'est incroyable. Là, qui sont donnés pour... Les enfants étaient un peu ignorés. Pour se donner aux enfants, pour leur montrer... Je pense à toi, Chantal, qui te mets à fond là-dedans. Hein. Il y en a d'autres qui t'ont précédé. Ils ont fait des sortes de vignettes parlantes. C'est des sortes de premières BD, enfin. Des vignettes parlantes, il fallait les écrire. Hein, voilà. Le ministère pour les enfants, l'enseignement... beaucoup d'enseignements qui sont donnés en dehors du culte lui-même. Diffusion de la Bible et évangélisation par ses colporteurs. La Société évangélique envoyait à cette époque jusqu'à 60 colporteurs bibliques, notamment en France, par hiver. C'est l'hiver, parce que c'est souvent des paysans ou des gens comme ça qui étaient plus libres en hiver. Et des évangélistes. Et bien des églises naîtront en France de ce ministère. Je peux vous témoigner. J'étais à Poitiers il y a 2, 3, 4 ans, et puis voir notre ami Flavien Negrini, et puis j'apportais le message là-bas, il me demande si je peux l'apporter à Rouillé. Je dis, c'est quoi Rouillé? Il me dit, il y a une église libre à Rouillé, on peut y aller, c'est à 30 km là, j'assure aussi de temps en temps le message, parce que voilà. Alors je vais à Rouillé, et là, j'arrive devant cette église, une chapelle, avec une porte gothique, enfin, bref. Et puis dans le cadre des Journées du patrimoine, cette église est ouverte, comme d'autres lieux. Voilà. Et il y a une plaquette officielle qui est marquée dessus. Et je vois sous le regard, c'est pas le regard, de la Société évangélique de Genève, plusieurs croyants se réunissent et fondent l'église évangélique libre de Rouillé. Église qui existait jusqu'à il y a encore une ou deux années, mais faute de membres, ils ont dû s'arrêter. C'est bien dommage, mais là, il aurait fallu avoir une personne, deux personnes, un couple qui puisse y travailler. Donc voilà. Hein. Et en 1834, à l'étroit dans ses locaux, la SEG, donc la Société évangélique de Genève, fait construire le temple de l'Oratoire, que vous connaissez très certainement, avec une chapelle, des salles nécessaires à l'école de théologie et une bibliothèque. Et on peut dire, si le premier réveil, je le mets par l'église dissidente et la première Sainte Seine, le deuxième réveil, on dit le deuxième réveil de Genève, c'est à peu près à cette période, c'est une école de théologie qui se met en parallèle avec celle de l'université. Tu peux mettre le 9e. Voilà. Alors j'ai résumé là, le 817, le premier réveil, la Seine, 1831, deuxième réveil, école de théologie au temple de l'Oratoire, 1834. Ensuite, il y a plusieurs dates. 1849, l'Oratoire et la Pélisserie, je vais vous en parler, qui forment l'église évangélique libre de Genève. Pour situer dans le temps, 1859, Henri Dunant, qui fait partie de la SEG, il est à l'origine de la Croix-Rouge, et en 1883, un peu dommage, mais enfin, la Pélisserie se sépare de l'Oratoire et quitte les églises évangéliques libres pour rejoindre les assemblées. Voilà d'où l'on vient, mes amis. C'est ces réveils qui engendrent à Genève, dans le canton de Vaud, des églises dites dissidentes. Dans le canton de Vaud, on parle des momiers, des yeux bleus, etc. Ces assemblées rejoignent le mouvement des Frères Larges, c'est un mouvement qui vient depuis l'Allemagne. Et pourquoi large? On ne peut passer sous silence la présence de M. John Darby, un prêtre anglican qui a dit des bonnes choses aussi, paraît-il, et prédicateur dans les milieux dissidents anglais. Il vient en Suisse romande entre 1835 et 1847. Il y trouve un réveil un peu essoufflé, notamment dans le canton de Vaud. Certains sont perméables à la prédication de Darby. Pour qui, et ce sera ça le point important, l'Église est une ruine. L'Église voulue par le Christ est une ruine. Il faut que je retrouve mon... Hein. Et qu'il est inutile d'essayer de la restaurer, comme le réveil, par exemple. Les croyants ne peuvent que se rassembler sous la seule direction de l'Esprit-Saint et attendre d'en haut une dispensation nouvelle, quelque chose de nouveau qui remplacerait l'Église. Ça, c'est le cœur de la prédication de David, de Darby. Alors, les principaux responsables et pasteurs des assemblées dites larges luttent contre cette doctrine. Ils essaient de dire « Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, enfin bon. » Et de cette église viendra les assemblées dites darbistes, dites des frères étroits, un peu dommage de les classer comme ça, en 1842. La communauté de la pélisserie marchait d'un même pas avec la communauté de l'oratoire. Il y a deux églises là qui marchent ensemble, ayant formé avec elle en 1849 l'église libre de l'œuvre qui existe toujours. En 1883, l'Assemblée de la Pélisserie dut à son regret de se séparer de l'Église libre de l'oratoire pour des motifs de doctrine. L'Église libre n'est pas du tout organisée du même type que les assemblées. Hein. C'est, il y a quand même un consistoire, ça copie un peu sans les vêtements sacerdotaux, ça copie un peu l'Église protestante, si j'ose dire comme ça. Hein. Elle se réunit aujourd'hui, donc, la pélisserie, toujours dans la même chapelle. En 1960, je me rapproche de nous, on trouve également des assemblées dans le canton de Genève, à Coligny, à Russin, à Vuzy, à Mérin et à Dardanie, en 1960. Collevray, il n'y a déjà plus. Dans le canton de Vaud, on peut signer la première église évangélique, c'est celle de Vevey. Après, il y en a d'autres qui ont suivi, Lausanne, Morges, Lavigny, Nyon, Rol, etc., qui sont des églises, des assemblées du canton de Vaud. Excusez-moi. Le 21 septembre 1884, je reviens un petit peu en arrière, les assemblées de Suisse romande, future AESR, Assemblée évangélique de Suisse romande, se retrouvent à Vevey et créent le mensuel, le journal, pas le mensuel, mais le journal Semailles et Moissons, afin de répondre aux besoins d'un lien entre les assemblées et les envoyés, les missionnaires. Voilà, j'en ai un là de Semailles et Moissons. Il date de 1972. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai ce Semailles et Moissons de 1972?
C'est l'année où tu t'es marié. Oui.
Voilà. Anne-Béatrice et moi, notre mariage est annoncé dans ce journal de Semailles et Moissons. Intéressant de le relire, entre parenthèses. Et qu'on dit ici d'ailleurs, ton trône, le Laos, etc. 1972. Le Semailles et Moissons. Ce fut un premier lien fort entre les assemblées. Vous voyez, quelque chose qui nous unit, cette mission des nouvelles, et on partage. Ensuite, au XXe siècle, nos assemblées se structurent. Elles se structurent ensemble pour la coopération missionnaire, donc se mettre d'accord ensemble, coopération dans l'évangélisation, parler des ministères, des actes ecclésiologiques, l'adoption d'une confession de foi commune, etc. Je voulais m'arrêter un petit peu sur ce siècle dernier. On a vu les assemblées de Suisse romande rejoindre les frères larges. Elles se structurent, comme déjà dit, et reconnaissent d'une manière large les ministères d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, Éphésiens 4, 11. Pendant tout un temps, ces ministères sont exercés par des hommes appelés frères à l'œuvre, comptant sur Dieu seul pour survenir à leurs besoins matériels. Enfin, ces frères sont reconnus et vont d'une assemblée à l'autre enseigner, etc. Il n'y avait pas de pasteur dans nos églises à cette époque. Pendant tout un temps, ces ministères sont exercés par des hommes frères à l'œuvre, et je vais en citer un ou deux de mémoire, ma femme m'a aidé, mais il y a Georges Audibert, je crois qu'il était, Samuel Perret et Paul Poiret. Paul Poiret, c'est celui qui m'a baptisé. Alors, parce qu'à la pélisserie, je ne sais pas pourquoi à l'époque, il fallait que ce soit un frère à l'œuvre qui fasse les baptêmes. Alors moi, j'avais, hein, c'est vieux, hein, c'était en 1966. Alors j'ai reçu, après mon baptême, le chant de victoire, une hymnologie magnifique du réveil, en parenthèse. J'ai relu un ou deux de ces chants, non jamais tout seul, hein, etc. Et là, Paul Perret, ce frère à l'œuvre, qui a signé ce chant de victoire, que j'ai reçu à mon baptême. Toute une histoire. Pour l'évangélisation, au siècle dernier, les assemblées ont fondé, ont mis en route un ministère qui s'appelait la Tente Romande, sur Vaud et quelquefois sur Genève. Une action d'évangélisation portée quand je le connaissais par Roger Grandchamp, c'est aussi ma femme qui m'a aidé, ayant permis d'annoncer l'évangile à des milliers de personnes. Moi, je me rappelle, j'étais X fois avec mon père qui prêchait sous attentrement de l'évangile, appelait les gens à se convertir. Ah oui, mais j'ai encore un truc là. J'ai encore une casquette de l'attentrement. Non, non, mais c'est l'élastique. Voilà, casquette de l'attentrement. Hein? Ça vaut plus que le bonnet de Crédit Suisse. Hein? Casquette de l'attentrement. Alors, ces assemblées, si elles se structurent, elles reconnaissent également les charges locales d'anciens de diacres. Ministère exercé à plusieurs pour paître le troupeau, en prendre soin, le conduire, le soigner, le surveiller, l'évêque, hein, berger, pasteur. Elles reconnaissent le sacerdoce universel, j'y reviendrai tout à l'heure, 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Sacerdoce universel de tous les croyants. Alors, la doctrine chrétienne qui affirme l'égalité de tous les croyants. Tous les croyants baptisés dans la grande mission, dans la grande église. Dans les églises protestantes, elle signifie principalement que tous les croyants ont une relation directe et personnelle avec Dieu. L'office de la prédication, etc., n'est pas une ordination comme les prêtres chez les catholiques. Voilà. Et dans le christianisme évangélique, on insiste sur le fait que chaque croyant de la communauté, on en a parlé la dernière fois, peut assumer les tâches que le pasteur accomplit dans l'église. Ça, c'est un gros truc dans les caractéristiques. C'est le sacerdoce universel. Chez nous, ici, c'est un privilège pour chacun d'apporter à Dieu, au culte notamment, sa louange, ses actions de grâce, son adoration. Le Saint-Esprit peut disposer de chacun pour l'édification commune. C'est ce qu'il y avait vraiment le siècle dernier. Et il y a la liberté de parole qui est donnée, si elle est inspirée par l'Esprit. Je continue. Les assemblées de frères larges pratiquent le baptême par immersion aux croyants adultes. Les frères et sœurs qui professent leur foi en Jésus-Christ peuvent participer librement à la Sainte Cène. L'offrande est pratiquée librement. Elle est destinée au soutien des serviteurs et servantes de Dieu, à l'œuvre missionnaire, comme elle peut aussi aider socialement et aux dépenses ordinaires d'une communauté. Les questions politiques ne sont pas débattues dans les assemblées. On renvoie à la parole du Christ, rendez à César ce qui est à César. Et liberté entière est donnée à chaque croyant des assemblées d'avoir ses opinions politiques. Voilà, je voulais juste m'arrêter un petit peu plus sur ces quelques valeurs. Et je reviens là, voilà. Alors, voilà. En 1972, pour revenir plus près de nous, c'est la mise en place du trait d'union missionnaire. Donc une organisation qui s'occupe de redistribuer les dons reçus des assemblées, qui les rassemble et les redonne aux missionnaires qu'on envoie. Avec ces diverses commissions chargées de la répartition des fonds communs, je peux en citer quelques-unes. À l'époque, il y avait la commission Asie, Afrique, Guyane Réunion, France, Espagne, Italie, Belgique, etc. Je parle de commissions missionnaires. Après, il y a eu des commissions sociales, etc. Voilà donc quelques-unes de ces commissions aujourd'hui. Je m'arrête là, quant à l'histoire, rappelant simplement que le journal Semailles et Moissons a fusionné avec le journal Vivre. Voilà. Semailles et Moissons est devenu ça. On a grossi, hein. On a grandi, j'espère, pas grossi. Est devenu Vivre. Et que donc le Vivre, c'était le journal des églises libres de Neuchâtel. Et que la SASR, il y a plus de 10 ans, fusionné avec les mêmes églises libres pour former l'Union des Églises Frères, Fédération Romande d'Églises Évangéliques, groupant plus de 50 églises en son sein. Pour le reste, faites appel à votre mémoire. Étudiez ou réétudiez toute la bibliothèque, je peux vous en montrer, au sujet du réveil. Concernant Mérin et son histoire, parole sera donnée à Michel Seret qui nous retracera l'aventure de Colovray à Mérin en passant par Malani. Je vais vous finir. Alors, je pourrais mettre les caractéristiques du réveil pour terminer. Quelles sont ces caractéristiques du réveil? Ça va, oui. Bon. La foi vécue comme une expérience personnelle. Et non par une conversion. Et non par une simple adhésion intellectuelle. Ça, c'est une caractéristique du réveil. La place centrale accordée à Jésus-Christ et à son œuvre de salut sur la croix. C'est vrai que dans les prières, encore aujourd'hui, on insiste là-dessus. On remercie Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. Une piété vivante et pratique. On ne se voit pas juste le dimanche en vitesse, et on fait le culte, puis on s'en va. Non, on a une piété, on fait quelque chose ensemble. On va fêter les 60 ans de l'Église. Un esprit missionnaire. Je crois que les assemblées ont toujours manifesté, et l'Église de Mérin aussi, un esprit missionnaire, en tout cas dans le soutien. Un souci social et caritatif. On n'oublie pas ceux qui sont autour. Une fidélité à la Bible, son autorité, son inspiration par Dieu. L'importance des laïcs, le sacerdoce universel, je vais y revenir. Et le renouveau du culte, notamment par les cantiques, les réunions de prière, les écoles du dimanche, etc., etc. Là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans ces églises. Hors du culte, il n'y a pas que le culte. Chez les frères Lage, nous, nos assemblées fonctionnent sur le système congrégationaliste, congrégationaliste, c'est-à-dire qu'elles partagent les points essentiels du salut et s'organisent autour de la mission et de l'évangélisation. Cependant, dans toute cette organisation, l'assemblée locale s'organise librement et en indépendance. Il n'y a pas d'autorité qui vont nous imposer quelque chose. Au départ, elles reconnaissent les ministères de pasteurs, d'évangélistes, d'anciens et de diacres, comme j'ai dit en Éphésiens 4, 11. Mais nos assemblées, à l'époque, elles craignent de trop les reconnaître clairement. Beaucoup d'églises n'avaient pas de ministère d'anciens, de diacres encore moins, puis de pasteurs, on n'en parle pas. Entre 1857 et 1880, bien des membres des assemblées darbistes quittent ce mouvement et rejoignent, ou font les assemblées, on dit darbistes élargies, ou rejoignent les assemblées de frères larges. Et ces gens ont une assez forte influence sur notre organisation. Aujourd'hui, le ministère d'anciens, ou de conseillers, de pasteurs, d'évangélistes ou missionnaires sont reconnus parmi nous. Ils sont soutenus. Peut-être au détriment du sacerdoce universel des croyants. Les laïcs se retirent. Laisse la place, désire des lecteurs, n'ont pas le temps. Et on assiste quand même à un fait de ce qui devient des actes pastoraux, l'enterrement, le mariage, voire les baptêmes, etc. Et peut-être, à l'époque, on a un certain glissement vers un certain cléricalisme. Les femmes, la femme est accueillie aux divers ministères. Attention, pas dans toutes les assemblées de la frère. Les assemblées de la frère, comme des assemblées qui sont nos assemblées sœurs, les CAEF en France, on ne reconnaît pas le ministère féminin. La femme peut faire des choses, oui. Mais je dois dire là-dessus que si la femme est à l'époque reconnue dans son ministère d'enseignement des enfants, de missionnaire, de service, de catéchisme, elle n'est pas reconnue au niveau ancien et pastoral. Mais cela, c'est un peu partout à l'époque. Que ce soit politique, dans les églises protestantes, catholiques, bien sûr, mais c'est plutôt la société, l'évolution de la société qui nous a appelés à réfléchir et à reprendre et à redéfinir les textes sur lesquels on se basait de manière assez forte. Les AESR, dont les assemblées évangéliques de Suisse romande, se structurent en association avec Rencontre Générale. En 1997, c'est pas si vieux que ça, hein, pour la première fois, on adopte des statuts. Le nom est choisi. C'est AESR, Assemblée évangélique de Suisse romande. En 1973, on engage un agent missionnaire. Il est parmi nous, c'est Armand Henniger, qui ouvre un premier bureau à Bellevue pour s'occuper des affaires du trait d'union missionnaire, au départ. Puis bien sûr, beaucoup de choses sont venues se greffer là-dessus, et ce bureau a déménagé à Saint-Pré pour différentes raisons. Et là, plusieurs personnes sont engagées pour faire marcher cette union de la fraie. Maintenant, c'est la fraie qui a pris le relais. par le mariage des AISR et des FEEL, Fédération évangélique libre. 14 bis, ah oui. Je voulais juste dire encore une chose. On appelait les assemblées. Aujourd'hui, on ne parle plus d'assemblée. On parle d'église, l'église de Mérin. Par contre, on disait l'assemblée de Colombray. On dit l'église de la Pélisserie. On ne dit plus l'assemblée de la Pélisserie. C'est un terme avec l'évolution, comme pour les anciens, etc. C'est un terme qui a disparu. Et ça, ça signifie quand même quelque chose. On est une église, on n'est plus une assemblée. Je termine. Comme nous l'avons vu, Dieu en Jésus-Christ, par son Esprit Saint, veille sur son Église, sur son épouse qu'il aime, et suscite au fil des temps des hommes, des femmes, qui courageusement se lèveront et proclameront la vérité et demanderont ou proposeront un retour un peu à la source. Aujourd'hui encore, on parle de réveil, ici ou là. On parlait du réveil pentecôtiste. On a parlé il y a quelques années du réveil de Toronto, je ne sais pas ce qu'il en reste. Aujourd'hui, on parle de celui d'Ashbury, ou quelque chose comme ça. C'est des réveils qui questionnent, qui, etc. On en parle dans le vivre, le dernier qu'on a reçu. Quant à nous, restons éveillés à l'écoute de la parole de Dieu, les uns des autres, des événements, afin de ne pas louper le coche ou le train de l'Évangile, toujours nouveau, toujours d'actualité. Seule réponse, cet Évangile, aux besoins de l'homme, du vide dans son cœur, dans son être intérieur, toujours seul chemin, seule vérité, seule vie pour qu'il soit sauvé. Alors je veux juste revenir, je conclue avec des paroles pleines de sagesse de Jean-Charles Moret, ancien secrétaire général des AISR, puis de l'AFRAY. Il écrit ça dans une de ses brochures. Il dit ceci, « L'histoire n'attend pas, même dans les églises. Elle souligne assez clairement qu'une société va toujours de la vie, le réveil, à la structure. Mais nous n'avons qu'une espérance, que dans notre union de la fraie, et je rajouterai dans l'église évangélique de Mérin, la structure, parce que je profite à la vie, et forme au contraire des couloirs où peut s'engouffrer l'Esprit de Dieu. Mieux encore, que notre union laisse souffler cet esprit sur les structures, là où il veut. Je vous remercie.
Bravo.
J'ai préparé, enfin, on peut discuter, hein. J'ai préparé quelques questions, il ne faut pas les mettre tout de suite. Et une des questions, c'est sur le sacerdoce universel. Où en sommes-nous? Je voulais juste reposer quelques, deux, trois pieds de sacerdoce pour voir ce que. C'est tiré un peu d'Apocalypse 1, versets 5 et 6, nous sommes tous sacrificateurs. Et de 1 Pierre 2, 9 à 10, nous sommes, etc. C'est l'affirmation, le sacerdoce universel, d'un seul intermédiaire entre les hommes, les femmes et Dieu, à savoir Jésus-Christ. Donc pas de saint, pas de mari, pas de prêtre et autres évêques. Royaume de sacrificateurs, chaque fois que personnellement, nous louons, nous adorons, nous demandons quelque chose à Dieu, ou demandons pardon par Jésus, en Jésus-Christ, nous présentons le sacrifice du Christ permettant cette relation directe avec Dieu. Au moment où nous présentons le sacrifice, nous sommes sacrificateurs. Pas d'ordination chez nous. Une reconnaissance, mais pas d'ordination. Pas de sacré, mais une reconnaissance des dons, des talents, des services, des ministères mis à disposition de l'Église, locale notamment. Évangéliste, pasteur, docteur, président, ancien, diacre, responsable d'école du dimanche, etc. On pourrait dire, il y a beaucoup de dons. Et ce sont des dons faits à l'Église. Voilà ce que je voulais un peu rappeler sur le sacerdoce universel. Voilà, c'est un petit peu comme je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai bien le gros aile, maintenant.
Mais peut-être qu'il y a des questions.
Alors, il y a peut-être des questions, mais attention. Hein. Oui, moi, j'ai des questions, mais ça, c'est après pour une discussion. Si on veut discuter en petit groupe ou tous ensemble, oui, on peut les mettre, ces questions. Mais s'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été dit, un éclaircissement, Il y a Boris qui connaît bien les choses, qui pourra nous éclaircir aussi, il connaît mieux les dates que moi. Voilà, j'en ai quelques-unes de dates que j'ai marquées, je ne dis si jamais, mais voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça, ou une remarque, ou une opposition, parce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas être d'accord dans ce que j'ai dit ou affirmé.
Est-ce que tu peux nous dire un peu les circonstances de la séparation entre la bellisserie et l'oratoire ? Tu as évoqué des questions théologiques.
Des questions de doctrine.
De doctrine.
De doctrine, ah, oui. J'ai l'impression qu'il y a des questions de doctrine.
C'est une réponse.
Alors, vas-y.
À l'oratoire, on est plus resté dans un système synodal.
Ouais.
Alors qu'à la pellisserie, on a été plus vers le...
Congrégationalisme.
Ouais. C'est là qu'il y a eu la discussion.
Ouais. Non, tu as avant. Avant ouais.
Mais ça, c'est pas vraiment de la doctrine.
Non, mais disons, après, on peut...
Ça,
tu parles du sacerdoce universel, ça te peut venir un point où on se sépare. La pellisserie était à l'époque très... Enfin, elle n'avait pas d'anciens, personne. Hein, c'était la conduite de l'esprit. C'était très darbisant, en fait.
Voilà, c'était darbiste. C'est ça qui les a séparés. Ils ont plutôt suivi darbiste à un moment donné, alors que l'Église n'y est pas.
Il y a une influence, c'est clair, mais ils n'ont pas suivi darbiste. Hein. J'ai jamais devenu une assemblée darbiste. Par contre, il y avait des darbistes. Bon, quand on y était, nous, il y avait plusieurs anciens qui étaient très importants à l'époque, qui étaient des anciens darbistes.
C'était pas au moment
de la... Ah non, c'est après. Non, mais ils sont séparés en 1883.
C'est à cause de Darby.
Je ne peux pas l'affirmer.
1831, c'est la création de la SEG.
Oui.
Qui va donc avoir bientôt 200 ans.
Bientôt 200 ans.
Il n'y a pas eu de cessation d'activité entre 1831.
Alors, la Société évangélique de Genève a été très à la pointe jusqu'à la fin du 19e siècle. Au 20e siècle, elle a eu une sorte de passage à vide.
Okay. Hein ?
Alors, l'oratoire existait, l'église libre, mais c'est maintenant, l'oratoire est devenu l'église libre.
Oui.
La SEG, il y a encore son adresse. Hein,
oui.
Mais il y a eu une porte de passage à vide. Et tout à coup, la SEG, par certains pasteurs, on parlait Charlie Cortet, Jacques Blandonnier, j'en oublie peut-être, ont tout à coup redécouvert cette société. Il n'y avait plus qu'un vieux monsieur qui était là, qui tenait les comptes. Il y avait dans cette société pas mal d'argent. Alors aujourd'hui, 20-30 000 francs, ça ne dit pas grand-chose, mais en 1950 ou 60, c'était une fortune. Et là, ces pasteurs, ces gens, enfin, entourés d'autres personnes, ont remis la SEG sur les rails. Et c'est là que, par exemple, ils ont fait venir mon papa comme agent de la société évangélique,
ouais,
où il faisait donc du porte-à-porte, de l'évangélisation, dans plusieurs cantons de Suisse romande, en France et même jusqu'en Belgique.
Ouais.
Et puis, ils ont ouvert la librairie Robert Estienne, il y avait une librairie qui existait déjà. Et ils ont eu un directeur qui s'appelait Paul Arnera. Et puis surtout, et là Daniel pourrait nous en parler beaucoup mieux, c'est les temps mission. Alors il y avait un journal, la société évangélique. Il y avait des rencontres protestantes avec des cornus, avec des gens comme ça qui sont venus parler dans ces rencontres protestantes. Et puis les commissions bibliques, qui s'appelaient les commissions protestantes au départ, qui sont les commissions bibliques, ont été pendant 20 ans, plus de 20 ans. Armand, il peut en parler, il s'occupait des bus. Hein, parce que les jeunes montaient dans ces bus, on partait en camp, j'en ai fait une douzaine de ces camps à l'époque. Et puis on partait évangéliser dans les campings, dans les villes, les villages, avec les films, en chantant la guitare, etc. quoi. Et ça, c'était une très forte période. Il y avait trop de jeunes inscrits à ces commissions. Puis après, ces commissions, c'est un petit peu descendu, parce que tu arrivais jeunesse en mission, on proposait des trucs d'aller plutôt prendre l'avion, de partir ici ou là, la caravane et le camping, et puis traverser tous ensemble la France dans un bus. Je pense, sur un certain plan, en tout cas pour moi, c'était peut-être moins d'attrait, tu vois. Et puis je crois qu'il y a toute chose en son temps. Et alors après, cette société évangélique a continué, elle continue toujours. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un sacré bas, là, en 2000 et quelques. Et puis maintenant, on est encore 7 ou 8 à essayer de... La société évangélique, aujourd'hui, on est vraiment... On est plusieurs à en faire partie. Il y a Armand, qui en fait partie.
Bernard
Bailly, Jean-Christophe. Et moi, il y a de l'église ici, de Mérin. Et puis il y en a deux, trois autres d'autres églises. qui viennent, notamment de l'Église libre, l'oratoire. Et alors, notre mission, après, on a perdu un peu nos feuilles, c'est un peu comme ça que j'avais reçu cette image, la société évangélique, une sorte d'orgueil, a perdu ses feuilles, a perdu ses membres, a perdu ses locaux, elle a tout perdu. Mais actuellement, elle est toujours là, il y a le petit noyau qui reste. Et puis, on a reçu vraiment cet appel, suite après le passage à Rouillé et la découverte de cette plaquette qui nous ont un petit peu relancé pour... aujourd'hui, on a vraiment un ministère de prière et d'accompagnement des églises en implantation en France. On en a plusieurs dans le Jura. Il y en a une à Frasne, à Jura avec Florian Rochat. Il y en a une à Montpellier. Il y a l'église des Negrini, etc. C'est des églises où on garde des contacts et on prie spécialement pour eux. Voilà un peu la société évangélique, ce qu'elle est aujourd'hui. C'est clair qu'elle cherche des membres. Parce que là, si ça continue, dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus rien.
Quelques dizaines.
Ah, il faudrait avoir des membres jeunes, mais c'est vrai. C'est difficile d'aller chercher les forces qu'on a. La prière est un truc que tu peux pratiquer jusqu'à la mort. Mais commencer à aller aider, mettre un coup de pelle ou comme ça, ça devient difficile. Donc voilà, la société évangélique existe toujours. Je la recommande à vos prières. Franchement, c'est une belle société. Elle a une histoire magnifique. Vous l'avez entendu, des gens qui étaient magnifiques là-dedans. On pourrait faire une soirée sur la société évangélique, mais je crois qu'aujourd'hui, elle existe encore. Et puis, je pense... Bon, c'est une vieille dame, elle peut aussi partir. Ça, c'est... Rien n'est éternel en ce moment. Mais elle va fêter ses 200 ans, effectivement. Alors, je vais mettre les questions au tableau. Alors, Daniel, tu peux mettre les questions. Alors, les questions, j'espère qu'elles ne vous surprendront pas. Alors, on peut en discuter, pas me poser les questions à moi. Hein. Moi, je me suis déjà posé. Bah, écoute, j'attends les questions maintenant. Ah, il y a peut-être une autre question. Non, c'est pas ça. Hein. Ça, c'était le début. Voilà. Non, c'est après. Voilà. Question partage. Alors, la première question, dans la FRAE et à l'EM, donc la Fédération Romande d'Église Évangélique et à l'Église Évangélique du Mar, où en sommes-nous avec la pratique du sacerdoce universel? Ça rejoint un peu la discussion de dernier atelier. Dans notre relation aux autres religions, chrétiennes ou non, quelle est notre identité évangélique? Aujourd'hui, ça discute beaucoup. Hein. Est-ce que évangélique n'est pas un terme piégé? Parce qu'il y a beaucoup d'évangéliques, il y a beaucoup de... une palette pas possible, toutes les couleurs. Et puis la dernière, quelle pierre vivante nos générations, donc nous, ont-elles à poser dans la construction, l'édification de l'Église? Voilà. C'est des belles questions, je crois. Et je vous laisse y répondre. Alors, je vous propose de se mettre, on est quand même assez nombreux, deux, trois groupes qui ont abordé ces questions. On n'est pas obligé de toutes les questions, qui ont été obligés de répondre.